Et on est dans les 5 minutes d'histoire dans l'Afterwork. On est mercredi et c'est Olivier et Florent qui nous ont rejoints. Bonjour.
Bonjour à tous.
Donc, on continue un petit peu le sujet qu'on a commencé la semaine dernière. Olivier, je te laisse faire un résumé.
Voilà, alors on avait parlé déjà, on avait rectifié 2-3 petites choses sur le Vatican. On avait reparlé des archives secrètes et puis notamment de cet aspect bibliothèque médiévale. Et Florent nous a ensuite accompagnés pour évoquer cette question un petit peu de, du Moyen-Âge, de sa richesse, de ses richesses, mais de ses richesses, et j'insiste là-dessus, qui casse un petit peu les codes, les clichés, hein, qui viennent d'ailleurs du mot Moyen-Âge, hein, Moyen-Âge, âge moyen, c'est-à-dire un âge qui n'était pas très intéressant, mais qu'on redécouvre au quotidien pourtant, hein, parce que bon nombre de choses qui sont de notre quotidien datent du Moyen-Âge. Et d'ailleurs, Florent, j'ai une première question là-dessus. Dans mon cursus d'histoire à la fac, j'ai abordé la question de l'archéologie expérimentale, et c'est ce qu'on appelait les nouveaux champs de l'histoire, hein, parce que c'est fondamental, le principe est simple, c'est vraiment de recréer à partir de vestiges, de bases de départ, un petit peu le quotidien de l'époque, histoire de se faire une bonne représentation. Est-ce qu'on pourrait dire que tu es un adepte de cela ?
Oh, un adepte, je ne suis pas vraiment archéologue, hein, c'est pas mon métier. Après, je travaille avec des archéologues qui vont pratiquer pour essayer de comprendre un petit peu mieux, ou alors des historiens. Par exemple, j'ai un ami qui est batteur d'armure, c'est l'un des deux plus grands spécialistes de la typologie des armures du 15e siècle, en langue française. Et en fait, justement, archéologie expérimentale, il a essayé de recréer la teinture bleue des fameuses armures bleuies. Donc il a travaillé sur la recette de la teinture bleue pour bleuir les armures. Voilà, il est parti, il a fait des expériences, donc il a vraiment oui, là c'est de l'archéologie expérimentale, et il a réussi à la recréer. Ensuite, c'est pareil, au niveau des armures, il va y avoir une chose qu'on va souvent entendre, c'est vous prenez une arbalète et vous percez n'importe quelle armure. Alors ça, c'est archi faux, les armures étaient testées, étaient passées à l'épreuve. Mais pour être sûr et comprendre un petit peu ce système-là, bah, la meilleure chose à faire, c'est tout simplement de prendre une arbalète, de fabriquer une armure, parce qu'on ne va pas tirer sur une pièce de musée.
Avec les codes d'époque, bien sûr.
Oui. Voilà, avec les codes d'époque, avec la trempe de l'époque. Donc ça, c'est pareil, c'est de l'expérimentation. Et une fois qu'on a recréé les deux pièces, eh ben, on va tester et on va se rendre compte que, ben, oui, une armure, ça résiste à un trait d'arbalète. Et on va le vérifier par des chroniques de l'époque qui vont attester, par exemple, d'un capitaine de cavalerie qui a pris un tir d'arquebuse. Donc là, c'est même ce qu'on appelle un calibre serpentin. Donc c'est les plus petites pièces à main de l'époque. C'est les pièces qu'on peut encore transporté à la main et pas sur affût comme un canon. Ce capitaine de cavalerie va se prendre un projectile d'arquebuse en pleine tête, le casque va être décroché, la sangle jugulaire, donc, qui tient le casque en place, va être arrachée, mais le lendemain le capitaine est à nouveau sur champ de bataille, le casque a fait son travail. Bon, le casque a subi, hein, il a été un petit peu tordu, mais le capitaine a survécu, et sur le coup il a été désarçonné et il a passé une bonne nuit de migraine, mais le lendemain il était à nouveau sur champ de bataille. Donc voilà, la résistance des armures prouvée.
C'est complètement dingue, hein. Olivier, il faut insister un peu sur le sérieux de la démarche, hein.
Oui, et puis je rebondis sur deux choses là-dessus, hein, parce qu'on parle déjà de recherche historique, de base de départ, que sont les textes, les enluminures, les vestiges archéologiques. C'est quand même quelque chose de fondamental. Alors avant de poser ma prochaine question, j'ai envie de vous parler juste d'un élément pour bien vous montrer le relief du travail de Florent. C'est que, concrètement, vous avez un professeur en Californie, alors je ne sais plus son nom, mais j'avais étudié ça en fac d'histoire, un professeur en Californie, qui possédait des vignobles également, hein, en Californie, professeur de fac américaine, et il recréait les conditions d'époque de bataille dans l'Antiquité grecque, en demandant à ses étudiants de s'affronter. Puis avec tout un tas de capteurs sur le corps de ses étudiants, il pouvait recréer les conditions, et puis surtout il pouvait se rendre compte de la charge, du stress, de la difficulté, etc. etc. Et j'ai envie de te poser la question, toi qui fais de la vulgarisation, mais de la saine vulgarisation par rapport aux élèves, mais aussi par rapport à d'autres types de publics, est-ce que tu peux nous donner un exemple de ce que tu fais ?
Ben, par exemple, je vais régulièrement en Belgique avec des amis qui font partie d'une troupe médiévale, et on recrée des champs de bataille. Donc ça fait partie du paysage de la reconstitution historique en Belgique. Mais moi, ça m'a permis une chose très importante pour mon travail, c'est tout simplement de porter une armure pendant 3 heures sur un champ de bataille où il y a un affrontement. Alors certes, c'est un affrontement facsimilé, parce que les coups ne sont pas destinés à blesser, mais simplement à s'amuser, hein. C'est un petit peu comme le rugby, on va pas casser la personne d'en face. Des fois il y a des accidents, mais bon, on va éviter ce genre de choses. Et le principe, c'est, voilà, j'ai pu porter une armure qui est une copie de pièce de musée pendant 3 heures sur un champ de bataille, en plein soleil, dans les conditions de l'époque, courir, marcher, sauter, me battre. Et on se rend compte que ben, c'est tout à fait faisable. Le mythe du chevalier qui tombe par terre et ne se relève pas, c'est un mythe. Moi, je fais des pompes dans mon armure sans aucun problème. Voilà, ça, c'est, pour moi, ça fait partie de l'archéologie expérimentale. Si on n'essaye pas ça, on ne peut pas réussir à comprendre et à en parler. Par exemple, Daniel Jacquet a fait un travail formidable sur l'armure. Il a fait un travail, justement, d'archéologie expérimentale sur le port de l'armure en conditions de combat.
Et donc, est-ce que c'est finalement plus léger que ce qui n'en paraît, les armures ?
Alors, il faut savoir qu'une armure au XVe siècle, c'est entre 20 et 30 kilos. Mais 30 kilos pour les plus complexes. Et on parle du poids des plaques d'acier. Ensuite, on a des armures de joute qui, là, vont être des armures de sport. C'est un petit peu comme la carapace du footballeur américain. C'est beaucoup plus gros, c'est beaucoup plus volumineux. C'est destiné à quelque chose de particulier, à un usage de loisirs. Donc là, on va pas avoir la nécessité de mouvement qu'on peut avoir dans un contexte de bataille. Donc on va avoir une armure plus lourde, extrêmement protectrice, mais du coup beaucoup moins maniable. Donc là, oui, s'il tombe, il se relève pas facilement, quoi.
On est toujours dans l'afterwork, ce sont les 5 minutes d'histoire. Je vous marque une petite pause, on se retrouve juste après.